Bon matin, tout le monde.
C'est encore un privilège de pouvoir venir vous partager la parole ce matin. Un privilège et une grande responsabilité. Avant de prier, je voudrais juste mentionner quelque chose en introduction. Il y a deux reproches que je vois dans les Saintes Écritures que Dieu fait aux pasteurs d'Israël. Puis par ricochet, à nous autres aussi, les anciens, les prédicateurs de l'Évangile. Le premier, c'est les prédicateurs, les pasteurs qui viennent pour leur propre intérêt. Dans Ézéchiel 34, 2, le Seigneur dit « Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? » Deuxième chose que le Seigneur reproche aux pasteurs d'Israël, c'est chercher à plaire, si on peut appeler ça comme ça. Et dans le premier livre des Rois, au chapitre 22, le verset 8, c'est Achab qui veut aller en guerre contre ses ennemis, puis il veut amener Josaphat avec lui. Josaphat, il dit, on va consulter l'Éternel pour voir si l'Éternel... Alors, Achab, il fait venir ses prophètes, mais ce n'est pas des prophètes de l'Éternel, c'est des prophètes de Baal. Puis, Josaphat, il dit... Achab, il dit à Josaphat, il y a encore un homme qui pourrait consulter l'Éternel, mais il dit, je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne me prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Achab, il voulait entendre des choses agréables. Il ne voulait pas entendre la vérité, il voulait entendre des choses agréables. Je vous dis ça parce que ce matin, ce que je veux vous parler, je veux vous parler de la prière. La prière, un rendez-vous divin. Puis, permettez-moi humblement de vous dire que la prière, ce n'est pas la force de notre assemblée. On est unis, on a de l'amour, on a une belle assemblée, mais la prière, ce n'est pas notre force. Puis, ça nécessite d'être adressé. Alors, ce matin, je voudrais vous parler de la prière. La prière, un rendez-vous divin. Puis, je vais faire un survol vraiment de tous les aspects de la prière, ou du moins de la plupart des aspects de la prière. Alors, courbez-vous avec moi, on va remettre ça dans les mains du Seigneur. Merci, Père Céleste, pour ta présence. Merci pour le privilège qu'on a de s'adresser à toi, Seigneur. Quel privilège de pouvoir venir et parler au roi des rois, à l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Quel privilège on a, Seigneur, de pouvoir le faire. Et quel manque, Seigneur Dieu, ça nous fait lorsqu'on néglige de le faire, Seigneur Dieu. Oui, Père, guide-nous dans ta parole ce matin, parle à nos cœurs et aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique et à augmenter, Seigneur Dieu, nos forces, Seigneur Dieu, pour venir à toi dans la prière. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, la Bible nous parle beaucoup de prières et de toutes sortes de différents aspects de prières. Nous autres, dans notre ancienne vie, si on peut appeler comme ça, ceux du moins qui sont l'âge de... Dans notre ancienne religion, la prière, ça se résumait à une répétition de paroles. Des dizaines, puis des trois dizaines, puis... Alors, ce matin, c'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler de la prière qui vient du cœur, la prière telle que la parole de Dieu l'annonce. Pas la multiplication de paroles, mais la prière qui vient du cœur. La première chose importante qu'on peut dire au sujet de la prière quand on s'approche de Dieu, il ne faut pas oublier notre position face à Dieu. Dans le psaume 8, les versets 4 et 5, c'est David qui parle, il dit « Quand je contemple les cieux, ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Quand David était berger, un jeune homme, il était berger, gardait les brebis de son père dans les champs la nuit, il a réalisé sa petitesse en opposition avec la grandeur de Dieu. La splendeur de la création, c'est l'ouvrage des mains de Dieu. Puis l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Romains, il dénonce les hommes qui retiennent la vérité captive. Ils voient la religion, ils voient la création, puis ils retiennent la vérité malgré qu'ils devraient publier le nom du Seigneur, ils retiennent la vérité. Dans Romains 1, chapitre 20, il dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alors, la création nous révèle la grandeur de Dieu. Cette révélation-là est suffisante pour qu'on vienne à la conclusion qu'il y a un grand artiste derrière l'œuvre de la création. Oui, peut-être que la création, la révélation dans la création n'est pas suffisante pour le salut, peut-être, mais est suffisante pour reconnaître le Créateur derrière la création. Puis, nous autres, en tant que chrétiens, cette révélation-là est suffisante, plus que suffisante, pour nous amener à louer et adorer le Seigneur, puis aussi pour nous rappeler notre position d'humain devant ce grand Dieu créateur. Bon, alors la première chose à retenir quand on s'approche de Dieu, bien, c'est avec une attitude humble, avec humilité. Ne pas oublier qui nous sommes, puis ne pas oublier qui Dieu est. Vous ne parleriez pas au premier ministre s'il vous invitait à souper, vous ne lui parleriez pas comme vous parlez à votre beau-frère. Vous prépareriez comme faux, puis vous l'aborderiez avec révérence, avec l'honneur qui lui est dû. Deuxième chose, la confession et la repentance. Bon, mais ça, la confession et la repentance, ça se fait dans la prière. Puis encore ici, David a expérimenté ça dans le psaume 51, les versets 6 à 8. David, il était conscient du péché dans sa vie. Il dit, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai blanc comme neige. » Lorsque je fais mon culte personnel le matin, c'est la première chose que je dois faire. Si j'ai des choses à régler avec le Seigneur, si ma relation avec le Seigneur est brisée, on va le voir tantôt pourquoi, bien, je dois venir puis confesser mes péchés, puis pas seulement les confesser, mais avoir une attitude de repentance. Parce que notre relation avec le Seigneur peut être brisée. Dans Ésaïe 59, le verset 1 et 2, on lit ceci, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Si vous avez offensé un ami, vous allez être mal à l'aise un peu d'aller le voir ou de lui téléphoner pour lui demander quelque chose sans auparavant régler la situation relationnel qui est brisé avec lui. C'est ça que ce verset-là nous dit. Puis ça, c'est la sainteté de Dieu qui exige ça. Si on n'est pas en règle, si notre communion avec Dieu n'est pas en règle, et pas, on n'a pas une bonne communion avec Dieu à cause du péché, il faut venir puis régler ça. Toujours David, dans le psaume 32, les versets 2 à 5, ça, ce que l'apôtre, ce que David dit ici, là, puis la manière que ça commence, le verset, ça dit, c'est la recette du bonheur, finalement. Il dit, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Ça, c'est la recette du bonheur. Heureux l'homme. Quand vous lisez ça, « Heureux l'homme », ça veut dire, si tu veux être heureux, fais ça. Verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alors, David, à différents moments, comme par exemple, lorsqu'il a commis l'adultère avec Bathsheba, lorsqu'il a fait assassiner sa femme, s'est organisé pour faire assassiner sa femme. Son mari, il est... sa relation avec le Seigneur, avec Dieu, était brisée. On ne sait pas exactement comment ça a duré, mais ça semble avoir duré quand même. Ça s'est échelonné, pas juste sur une journée, parce que il a commis l'adultère, après ça, il a fait, le général est venu, il a donné des instructions pour que Uri soit placé dans un endroit où qui était défendu par des vaillants soldats de l'ennemi. C'est organisé pour... Alors, ça a duré pendant probablement quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être un an ou deux, on ne sait pas vraiment. Mais qu'est-ce que David a vécu pendant ce temps-là? Il dit, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Il n'y avait plus de joie. Le péché, ça nous enlève la joie. Ça nous enlève la joie du Seigneur, dans le Seigneur. Alors, confessez nos péchés. La repentance et la confession. Alors, une attitude d'humilité, la confession, reconnaître nos péchés, confesser nos péchés. Puis après ça, qu'est-ce qui vient? Bien, il vient la louange. Notre position devant Dieu et la confession de nos péchés nous amène à la louange. La louange, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait pour nous. Remercier le Seigneur Jésus pour la croix. Publier les hauts faits de Dieu. Les psaumes nous donnent des exemples de ça. Louer, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Louer, ça veut dire du bien de quelqu'un. Par exemple, si je vous dis que mon épouse est une bonne cuisinière, mais c'est la louanger. Alors, tout ce que Dieu fait ou fera, il est bon, c'est digne de louange. Alors, dans notre temps de prière, lorsqu'on vient à Dieu, la louange est importante. Et on a des exemples de ça multiples dans la parole de Dieu, dans les psaumes. Les psaumes, il y a plusieurs psaumes qui sont des psaumes de louange. Le psaume 117, par exemple, qui est un psaume qui est très court. « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » Alors, le psaume 117, les 115, 116, 117, 118, des psaumes de louange, puis il y en a plein d'autres. Chanter des cantiques, aussi, c'est une manière de louer le Seigneur. Souvent, quand je travaille, je fredonne des cantiques. Ou même, je siffle des airs de cantiques chrétiens. Le sifflet, c'est le seul instrument de musique que j'ai jamais réussi à maîtriser. dans bien des psaumes, c'était des cantiques. Ils étaient accompagnés d'instruments de musique. Les cantiques que nous chantons au début de la réunion sont des psaumes de louange. Les cantiques qu'on chante, c'est de la louange. Ici, Marlène choisit pour nous les cantiques. Elle est, pour ainsi dire, comme on voit dans les psaumes, la chef des chants. On chante des beaux cantiques. Il faut faire attention, des fois, la musique chrétienne qu'on écoute, de s'assurer que ça loue vraiment le Seigneur puis que ça dit la vérité. Puis des fois, il y a des petites choses dans les cantiques qui sont fausses, qui disent des faussetés. La louange, puis nous, on fait notre louange au début, puis après ça, qu'est-ce qui va venir? Il vient l'adoration. Ensuite vient l'adoration. Dans la Bible, l'expression « ils adorèrent », elle revient sept fois dans la version Louis II, ça revient sept fois. Mais dans six de ces sept fois-là, cette expression-là est accompagnée d'une autre expression, c'est l'expression « ils se prosternèrent ». Ils se prosternèrent, ils adorèrent. Donc l'adoration, c'est courber nos corps et nos cœurs devant Dieu. C'est un acte d'humilité, de reconnaissance, d'amour envers notre Sauveur. Encore au sujet de l'adoration, le moment fort de l'adoration dans notre assemblée, c'est la table du Seigneur. C'est le moment le plus fort de l'adoration. Le Seigneur, il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Se rappeler, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix? Ça, c'est la base de l'adoration. Se rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est la base de l'adoration. C'est ça qui devrait guider l'attitude de notre cœur quand on se présente devant Dieu. Il faut toujours avoir ça dans la tête, surtout l'avoir dans le cœur, mais aussi, il faut l'avoir sur les lèvres. Puis je ne me cacherai pas de vous dire que ça me trouble un peu de ne pas entendre plus d'expressions de reconnaissance envers notre Seigneur et Sauveur lors de la table du Seigneur. Bon, on peut avoir bien des excuses pour ne pas le faire. Peut-être qu'on n'a pas la parole facile, peut-être qu'on est gêné. Peut-être que je me dis que je le fais dans mon cœur. C'est correct aussi, là. Mais je me demande des fois si il n'y a pas un manque aussi de reconnaissance ou de connaissance. Est-ce qu'on réalise vraiment la grandeur et la préciosité du salut qu'on a obtenu de la part de Dieu? Est-ce qu'on réalise que le salut, là, que Dieu nous a sauvés de la perdition éternelle? Dieu nous a sauvés de souffrir éternellement. L'éternité, vous savez, là, c'est long. C'est long. On n'a pas besoin de faire des grands discours. Oui, il y a des personnes qui ont le verbe plus facile. Mais dire « Merci Seigneur pour ton salut » ou dire « Merci Seigneur pour la croix » ou « Merci Seigneur pour ta présence » Une phrase courte comme ça, on n'a pas besoin d'être des grands orateurs pour dire ça. La table du Seigneur, c'est le moment fort de notre adoration, puis on a besoin de faire ça. Un autre aspect de l'adoration, un autre marque d'adoration, et ça, je vous en ai déjà parlé, et ça, c'est difficile de parler de ça. C'est rare qu'on entend parler des pasteurs de ça, des prédicateurs de ça, puis c'est rare qu'on aime entendre ça. La plupart du temps, les gens n'aiment pas entendre parler de ça. Une autre marque d'adoration, c'est la dîme et les offrandes. Plus spécialement la dîme. Je vous ai déjà parlé de ma conviction à ce sujet-là. L'origine de la dîme, c'est lorsque Abraham est revenu de la bataille des rois, puis il a donné la dîme à Melchisédek, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il a donné ça, pourquoi? En signe d'adoration. Il a donné le dixième de ce qu'il avait rapporté en signe d'adoration. On voit ça dans Genèse 14. Encore ici, on a toutes sortes d'excuses, peut-être pour ça. Je ne suis pas riche, la vie coûte cher. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 9, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Alors ça peut être une excuse. Lorsque l'apôtre Paul dit ça, il ne parle pas de la dîme, il parle de la collecte en faveur des pauvres. La dîme, ce n'est pas une question de générosité, c'est une question d'adoration. Une question d'adoration, de reconnaissance et d'obéissance. Oui, je vous accorde qu'on peut interpréter cette conviction-là de façon différente, que c'est une prescription dans l'Ancien Testament. La dernière page de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus, le Dieu, il dit ceci dans Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 10. Il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Puis après ça, écoutez qu'est-ce qu'il dit. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous le robinet des cieux. » C'est ça qui est marqué, vous, là, dans votre Bible, « robinet des cieux ». Un robinet, là, ça ne laisse pas passer beaucoup d'eau. Mais là, il dit les écluses. Une écluse, là, vous irez voir quand il rouvre l'écluse à Manique 5, comment il sort de l'eau. « Si je ne répands pas sur vous la bénédiction avec abondance. » Il dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Alors, l'adoration, c'est dans la prière, mais aussi, dans les dîmes. On peut ne pas avoir cette conviction-là, mais il ne faut pas que ce soit un prétexte pour ne pas honorer le Seigneur avec nos biens, surtout que tout ce qu'on possède vient de Dieu. L'intercession maintenant. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, il dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Selon sa volonté, d'où la nécessité d'être capable de discerner la volonté de Dieu. » Pas seulement discerner sa volonté, mais discerner, de connaître la personne de Dieu. Et ça, comment qu'on fait ça? On fait ça par la parole de Dieu. Si je ne lis pas la parole de Dieu, j'ai une faible connaissance de la personne de Dieu, puis je vais avoir une faible propension à m'adresser à lui pour intercéder pour mes besoins, pour les besoins des gens qui m'entourent. Alors, la connaissance de Dieu, en lisant la parole, ça augmente la connaissance de Dieu, puis ça augmente aussi ma connaissance de sa volonté. Après ça, avoir la paix dans la prière. Le conseil des frères et sœurs sages, autour de nous aussi, ça nous aide, puis parfois les circonstances peuvent nous aider. Alors, l'intercession, ce n'est pas demander des choses que je désire vivement ou que... comme mon voisin, il a une auto neuve. Lui, c'est un païen, puis moi, j'ai une vieille auto. Seigneur, comment ça se fait? Je voudrais avoir une auto neuve, moi aussi. C'est pas ça, l'intercession. Il dit, c'est selon la volonté. Si nous demandons quelque chose, selon la volonté, nous écoute. J'ai rêvé que je gagnais le gros lot. C'est un signe, je vais aller m'acheter des billets de loterie. Alors, les rêves, la rêve à... Le rêve à sage, ce n'est pas là qu'on retrouve la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Puis le Seigneur nous a enseigné abondamment là-dessus dans Matthieu chapitre 7, les versets 7 à 11, c'est les béatitudes. Le 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Mon père, nous autres, on était une famille de classe moyenne. Mon père a travaillé pas mal dur pour réussir à pas être pauvre. Puis, je pouvais lui demander bien des choses. Il y a bien des choses que je n'osais pas lui demander parce que je savais que ce n'était pas sa volonté. Mais je pouvais lui demander bien des choses, puis je ne me privais pas de lui demander quand j'avais besoin. Face à Dieu, on a le Dieu qui a créé toutes choses, à qui appartient toutes choses. Puis, on ne lui demanderait pas les choses qu'on a besoin? Voyons, ça n'a pas d'allure. Il dit, « À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Et la prière, c'est une prière qui doit être faite avec foi, vous le savez. Dans Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8, l'apôtre Jacques dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui manque de sagesse ou qui manque de n'importe quoi d'autre, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Si on demande quelque chose à Dieu, puis on doute, bien, on est comme ça, on est agité, poussé d'un côté et l'autre. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Si on demande quelque chose au Seigneur selon sa volonté, il dit, on va le recevoir. Il faut demander avec foi. Maintenant, la persévérance dans la prière. Et là, je vous donne une série de, un peu en rafale, je vous cite les versets. Yolande, tu vas peut-être avoir de la misère à me suivre, mais l'horloge tourne. Dans Philippiens 4, verset 6, c'est l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul parle abondamment de ça. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. » Alors, il dit, « Faites-les connaître vos besoins. Vous avez quelque chose dans vos vies. C'est quoi qui vous préoccupe dans vos vies? » Vous vous levez ce matin, là, vous vous dites, « Là, moi, aujourd'hui, là, ça me fatigue. » C'est quoi qui vous préoccupe dans vos vies? C'est quoi qui manque dans vos vies? Il dit, « Demandez-le. » Puis, il dit, « Par les prières, puis plus que ça, il dit, « Par les supplications. » Par les supplications. Puis, encore plus que ça, un pas de plus, avec action de grâce. De dire merci parce qu'on croit qu'on l'a déjà. Daniel, au chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel, il était menacé de se faire couper le cou s'il priait quelqu'un d'autre que la statue que le roi s'était érigée. Ça n'a pas changé ses habitudes. Il a continué de prier, de persévérer dans la prière. Colossiens chapitre 2, verset chapitre 4, verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Même chose que l'autre verset d'avant. 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse. » Autrement dit, là, priez, continuez de prier tout le temps. Passez pas 3 semaines sans prier. Priez chaque matin, que ce soit votre première chose que vous faites en vous levant. Moi, je prends un temps pour prier assis dans mon fauteuil, mais des fois, je fais juste la première chose que je fais, je me lève, m'assis sur le bord du lit, puis là, le temps de me décourbaturer un peu, je parle au Seigneur. Seigneur, dirige-moi cette journée. Dirige-moi dans cette journée-là, dans cette journée. Priez sans cesse, à tous les jours, il faut venir au Seigneur. Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alors, on se réjouit parce qu'on on a le Seigneur, on peut espérer dans le Seigneur, on sait que le Seigneur est là. Il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans vos vies, priez, soyez patients, puis persévérez dans la prière. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Jacques 5, 17, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance. Lorsqu'Élie a prié pour la pluie, là, c'était pas, il n'a pas répété Seigneur, envoie la pluie, Seigneur, envoie la pluie 10 fois ou 3 fois 12. Il a prié avec son cœur, vraiment, avec instance. Psaume 40, verset 2. J'avais mis mon espérance, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Ça, là, quand je lis ce verset-là, il y a une image qui me vient. L'image qui me vient, là, c'est ça. Quand je prie, là, c'est ça qui se passe au ciel. Il a incliné. Le Seigneur s'est incliné vers moi. Alors, on persévère, on a toutes les raisons de persévérer. La reconnaissance et l'action de grâce, un autre aspect de la prière. Rendez grâce en toutes choses. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, c'est la suite de ce qu'on a lu tantôt. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, rendez grâce en toutes choses. Ça fait appel à une vertu qu'on appelle le contentement. Soyez content de ce que vous avez. Remerciez le Seigneur de ce qui vous arrive, de ce que vous avez. Et même quand vous avez des épreuves, même quand vous êtes malade, même quand c'est difficile, même quand vous êtes assis dans une salle d'attente, ça fait 12 heures que vous êtes assis dans la salle d'attente d'hôpital, puis qu'il ne se passe rien. Merci, Seigneur, de pouvoir avoir une chaise pour m'asseoir. Psaume 103, verset 2. Le psaume 103, c'est un psaume extraordinaire. C'est mon psaume préféré. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aucun de ses bienfaits. Soyez reconnaissants. Colossiens 3, 15, il dit ça. Et soyez reconnaissants. Le Seigneur Jésus, dans Luc, chapitre 17, verset 18, c'est au sujet de la guérison des 10 lépreux. Il dit, « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Il y a 10 lépreux, ils ont été guéris les 10. Il y en a un seul qui est revenu voir le Seigneur pour lui dire merci. On voit que le Seigneur Jésus prie lorsqu'il fait la multiplication des pains et des poissons. Il rend grâce à Dieu. En résumé, l'humilité, la confession, la louange, l'adoration, l'intercession, la foi, la persévérance, la reconnaissance sont les aspects de la prière qu'il faut cultiver. On a besoin de cultiver ça. On a besoin de cultiver ça dans nos cœurs, puis aussi avec notre langue. Puis nous autres, comme assemblée chrétienne, ce n'est pas notre plus grande force. Et même plus que ça, je vais vous confesser que dans ma vie personnelle, ce n'est pas ma plus grande force. Quand je prends les temps de prière, c'est pas difficile que je pars à rêvasser. Je vais prier pour un de mes enfants, puis là, je vais partir, puis je vais penser à tout ce qui se passe avec mon enfant, puis qu'est-ce que je devrais faire, puis qu'est-ce que... Il y a des obstacles à la prière. La prière, c'est un rendez-vous divin, puis pour se rendre à ce rendez-vous-là, il y a des obstacles. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, il dit, « Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Ce passage-là, ça parle des relations hommes-femmes, du couple, les conflits dans le couple. Mais ce n'est pas seulement les conflits dans le couple, c'est les conflits tout court entre les chrétiens, puis même pas seulement entre les chrétiens, avec les gens du dehors. Il dit, si vous avez des conflits, ça fait un obstacle, c'est un obstacle pour la prière. Matthieu 6, 5, ça c'est encore dans les Béatitudes. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Qu'est-ce qu'il disait les hypocrites? Il disait, merci Seigneur, parce que lui, là, j'aime autant pas être comme lui, là. Toujours dans Matthieu 6, verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Hey, ça, moi, j'en ai fait, là, les vaines paroles, avant de me convertir, quand j'étais jeune. J'étais pensionnaire chez les sœurs, puis j'en ai fait des vaines paroles. Jérémie, chapitre 29, verset 13. Le Seigneur, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous voulez venir au Seigneur, que ça vient du cœur, que vous désirez vraiment le Seigneur, vous désirez vraiment connaître le Seigneur, vous désirez vraiment connaître sa volonté, vous désirez vraiment être reconnaissant, vous désirez vraiment le louer, l'adorer. Il dit, si vous faites ça, il dit, vous allez me trouver. Matthieu 26, 41. Le Seigneur, il dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Parce que la prière, ça nous protège de la tentation. Puis, les tentations, des fois, ça nous fait succomber. Puis, c'est un obstacle à notre prière. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Puis au verset 9, il dit, « Résistez-lui avec une foi ferme. » Alors, voulez-vous voir Dieu dans vos vies? Bien, la prière, la lecture de la parole de Dieu, c'est important. La prière, c'est une des clés. Finalement, il y a un dernier aspect de la prière, une dernière chose qu'il faut dire sur la prière. C'est la prière de repentance et de conversion. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un téléphone pour appeler quelqu'un, puis que la ligne est coupée. Il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne. Ou il n'y a pas d'antenne. Vous êtes à Mouk-Mouk, loin dans le bois, puis votre cellulaire, ça ne prend plus. On a besoin d'appartenir au Seigneur. Oh, le Seigneur, il écoute toutes les prières. Mais il y a une prière qui est importante, c'est la prière de conversion. Et si on ne connaît pas le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, si aujourd'hui vous n'avez pas la conviction que si vous mourrez aujourd'hui, que vous allez aller directement au ciel, si vous n'avez pas cette conviction-là, vous avez besoin d'avoir ça. Vous avez besoin d'avoir ça. Si vous vous présentez devant Dieu aujourd'hui puis qu'il vous demande, pour quelle raison je devrais te laisser rentrer dans mon ciel? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? La seule bonne réponse, c'est la croix. C'est parce que je mérite la condamnation, mais le Seigneur Jésus, il est mort sur la croix. C'est Dieu qui est parti du ciel. Il s'est fait homme. Emmanuel, Dieu avec nous, il est venu sur la terre pour payer la condamnation de mes péchés afin que je n'ai pas besoin, que je ne sois pas envoyé à la perdition éternelle, à la souffrance éternelle, mais que je sois sauver de ça. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous avez besoin d'adresser ça, puis vous pouvez demander à n'importe qui, Jean-Marc, Michel, moi ou n'importe qui ici, pour avoir de l'aide pour ça. Courbez-vous avec moi, on va remettre ça entre les mains du Seigneur. Merci, Père, pour ta parole, pour ce privilège qu'on a d'avoir ta parole. Et Père, donne-nous la grâce, Seigneur Dieu, de pouvoir grandir dans ta connaissance, de grandir dans notre relation avec toi, Seigneur, et que la prière, Seigneur, devienne pour nous, Seigneur Dieu, une arme, Seigneur Dieu, contre l'adversaire, une arme pour nos vies chrétiennes, et qu'on puisse utiliser cette arme-là, Seigneur Dieu, que tu mets à notre disposition. Oui, merci, Père, parce que qu'on a accès à toi, Seigneur, qu'on t'a fait de nous des co-héritiers de ton Fils Jésus et qu'on est en route vers le ciel. Et on te loue pour ça, Seigneur, et on te prie de nous aider, Seigneur, à grandir dans nos habitudes et notre vie de prière. On te le demande, Père, au nom de Jésus. Amen.